Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma classique. Enfin, vous savez, on essaye toujours de tout faire rentrer dans des cases dans Culture Prohibée. Alors, il y a des films dans l'émission qui vont être de véritables classiques du cinéma, et puis d'autres qui vont être des films signés par des metteurs en scène, considérés comme des metteurs en scène classiques. Le sommaire aujourd'hui est assez varié, puisque nous aborderons, entre autres, les Nibelungen. Alors, Nibelungen, c'est Siegfried et la vengeance de Grimhild, un diptyque de Fritz Lang, un diptyque de 1924, qui est sorti chez Potemkin Film dans une superbe édition. Et on va parler aussi de ce film avec l'historien William Blanc, qui est intervenant dans les bonus, donc un bonus qui s'appelle « Les Nibelungen, échos de leur temps ». On ira faire un tour aussi du côté de la comédie italienne avec « Hier, aujourd'hui et demain », un film de Vittorio De Sica qui est sorti chez Carlotta Film. On causera également d'un autre maître de la comédie d'ailleurs, Black Edwards, pour un film qui s'appelle « Qu'as-tu fait à la guerre, papa ?», qui est un film qui sort chez Rimini Éditions. Puisqu'on est dans la guerre, on parlera aussi des Boys, les Boys de la compagnie C de Sidney J. Fury, là aussi disponible chez Rimini Éditions. Un cinéaste lui plutôt pacifiste, on parlera de Wim Wenders avec Perfect Days qui sort là chez Blackout. Et puis, on parlera d'un réalisateur de série B un peu méconnu, en tout cas pas assez apprécié à notre goût, en tout cas. Je veux parler de George Sherman. Les trois films de George Sherman sortent chez Éléphant de Film, donc Brigade Secrète, À l'abordage et Les Bolides de l'Enfer. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Victor Lopez, François Villa et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission qui, nous vous le rappelons, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur ecstasyofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, oserais-je dire classique d'ailleurs, animateur avec l'ami Louis Artige de Projection Perdue, un podcast de la Chimératech qui est disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre élément perturbateur et non moins indispensable à la réussite de cette émission, présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
Thomas, puisque tu as la parole, je vais te laisser nous parler, avant qu'on échange au sujet de ce diptyque avec William Blanc, je vais te laisser nous causer de Les Nibelungen, donc Siegfried et la vengeance de Grimhild, deux films de 1924, enfin réunis donc en
qui forment un seul film en vérité, hein, disponible là chez Potemkin Film.
Dans la carrière de Fritz Lang, Leni Bellingen se situe entre Le Docteur Mabuse et Metropolis. Hein, donc c'est un film muet. Et au départ de ce film de 5 heures, hein, oui ça dure 5 heures, il y a la chanson des Nibelungen, puis un cycle de 4 opéras de Richard Wagner, L'Anneau de Nibelung. Fritz Lang et son épouse, la scénariste Thea von Arbou, en adaptent les deux parties. La mort de Siegfried et la vengeance de Grimhild en 1924, mais le cinéaste avoue s'être avant tout inspiré de la chanson des Nibelungen. Les deux parties témoignent du goût du cinéaste pour le récit épique où le récit ou le fantastique côtoie un aspect plus guerrier. La première partie relate comment Siegfried combat le dragon et arrive au royaume de Burgonde pour demander la main de Grimhild, la sœur du roi Gunther. Cette partie s'aventure ouvertement sur les terres de l'heroic fantasy avec pouvoir magique, enchantement, mais les hobbits en moins. La vengeance de Grimhild, de la suite donc, s'avère très différente dans ses décors qui se font plus arides, bien éloignés des forêts germaniques et des châteaux de la première partie. Cette fois, l'action se situe dans des plaines d'Europe de l'Est. Grimhild a accepté l'offre de mariage de Attila le Hun en échange d'une promesse. Elle n'oublie pas la trahison de Hagen Tronge et compte bien la lui faire payer. Oui, parce que Hagen Tronge est un sale type avec un seul œil qui a trahi entre autres Siegfried et donc son épouse Grimhild. Autant la première partie est très fantastique, hein, donc je disais qu'enchantement, il y a un dragon que je trouve très réussi pour l'époque. Hein. Bon, c'est un film des années 20, hein, des effets spéciaux forcément, c'est pas les mêmes que maintenant. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que les caméras à l'époque étaient très grosses, très lourdes, donc c'est que des plans fixes. Mais Fritz Lang réussit quand même à insuffler un certain dynamisme dans son film, donc ça dure 5 heures et les 5 heures on ne les voit pas passer, hein. C'est vraiment très dynamique, il y a une mise en scène quand même assez exceptionnelle qui à mon avis resplendit beaucoup plus dans la deuxième partie qui est quand même incroyable parce que chaque partie dure à peu près 2h30 et si je me souviens bien, la deuxième partie il y a quand même 1h30 de combat. Une heure et demie de combat, mais c'est un massacre absolu.
Les Nibelungen, donc Siegfried et la vengeance de Grimhild, hein, donc deux films, deux parties, effectivement, qui constituent donc un diptyque, mais réunis sous la forme d'un immense film de 4h30, disponible donc chez Potemkin Film, hein, en quelque sorte un peu ce double programme de 1924. Ces Nibelungen, donc, sont décortiqués dans les bonus par l'historien William Blanc. Dans un bonus qui s'intitule Les Nibelungen, échos de leur temps. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de, tout de suite, on retrouve William Blanc au micro de Culture Prohibée pour évoquer justement les Nibelungen.
On parle des Nibelungen, j'aime bien dire que c'est le Seigneur des Anneaux avant le Seigneur des Anneaux. Et en fait, on a l'impression que, en gros, les grosses superproductions de fantasy, ça date des années 2000, voilà. Donc, grâce aux effets spéciaux, grâce aussi à l'argent qui a été mis dedans, grâce au fait que la fantasy c'est devenu un genre à la mode. Mais en fait, quand on regarde les Nibelungen, c'est un film énorme, avec un budget pharaonique, qui dure, alors ça dépend des versions en fait, hein, mais qui dure entre 4 et 5 heures en fait, hein, donc avec les deux volets en fait, hein, raccrochés les uns aux autres. Et donc, oui, c'est un film absolument énorme, et en plus qui se passe hein, dans un. Qui raconte une légende médiévale. Parce que ça s'appuie, en fait, hein, ce film de Fritz Lang s'appuie sur un texte du Moyen-Âge, qui a aussi servi d'inspiration au passage à Wagner quand il a écrit sa tétralogie, en fait, hein, L'Anneau des Nibelung, ses quatre opéras. Et donc Fritz Lang, lui, retravaille en fait ce matériau, ce texte en fait du XIIIe siècle, et puis on fait un film, et c'est là où ça devient intéressant, un film dans lequel évidemment il fait passer des messages par rapport à l'actualité notamment de l'immédiate après Première Guerre mondiale.
Oui, parce que comme tu le soulignes dans les bonus, il utilise la métaphore de Siegfried, la légende de Siegfried qui a une grande importance dans l'inconscient collectif allemand. C'est-à-dire Siegfried qui reçoit une lance dans le dos, donc qui est trahi et qui évoque en fait le fait que l'armée allemande, défaite en 14-18, elle l'a été à cause elle aussi d'un coup de poignard dans le dos, et un coup de poignard dans le dos de qui, évidemment, des communistes, des syndicalistes, des juifs.
Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que c'est ce motif-là en fait de Siegfried, donc qui se prend une lance dans le dos en fait, est connu par tout le monde, donc tout le monde s'attend tout le monde s'attend à la voir dans le film, et en plus elle figure sur l'affiche du premier volet en fait, figure à l'affiche officielle alors c'est marrant, dans le film en effet Siegfried il est accueilli dans une cour en fait autour de nobles, et puis en fait au bout d'un moment il suscite des jalousies, et donc un des nobles en fait qui s'appelle Hagen va donc lui mettre un coup de lance dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment en fait juste après la fin de la Première Guerre mondiale, le maréchal en chef de l'armée allemande, qui était un quasi-dictateur à la fin de la Première Guerre mondiale, dit « Ah, on a perdu !» parce qu'en effet, on s'est pris un coup de poignard dans le dos, comme Siegfried, en fait. Donc, il dit ça en 1920, dans un livre officiel, dans ses mémoires de guerre, et donc ce qui fait que, voilà, là, quelque part, eh bien, c'est une mise en film de ce propos, et comme tu dis, en fait, c'est évidemment un propos qui permet déjà de dédouaner tout le corps des officiers allemands, en fait, de leur responsabilité dans la guerre, en disant, c'est pas nous qui avons perdu, on a perdu à cause des communistes et des juifs, voilà, là, clairement, c'est un truc antisémite, ça permet aussi, tout en effet, de dire, l'Allemagne a perdu à cause d'éléments étrangers, en fait. Et ça, ce film-là, Lang, il est complètement là-dedans, en fait, à cette époque-là. Il est complètement dans ce discours-là.
Oui, parce que tu le soulignes aussi dans les bonus, en parlant donc de ce film, Les Nibelungen, et dans le bonus, donc, Écho de leur temps, de cette superbe édition éditée par Potemkin Film, tu poses clairement la question, c'est-à-dire de Lang qui a conscience de nourrir un discours tenté d'antisémitisme, parce que dans le film, il y a, certaines scènes qui représentent des traîtres avec un physique très caricatural, bossu, nez crochu, doigts griffus, parce que, comme tu le dis aussi dans les bonus, si Lang n'a pas été nazi, Von Harburg, oui, donc qui scénarise le film, donc le film est quand même problématique de ce côté-là.
Oui, de toute façon, c'est un film. Alors là, notamment le personnage qui est le plus frappant là-dessus, c'est Alberic, le nain en fait, qui est joué par Georg Jön. C'est frappant parce qu'en effet, voilà, là, c'est vraiment la caricature. Alors en plus, c'est marrant parce qu'en fait, c'est même très parlant parce que dans le texte médiéval, Alberic, qui est le roi des nains, en fait, eh bien, il est décrit comme étant un guerrier, voilà, c'est pas un personnage si négatif que ça, quoi. Et là, dans le film, il est complètement transformé. Alors, c'est pas la première fois qu'Alberic est transformé, en fait, même chez Wagner, en fait, il y a déjà il y a déjà clairement, en fait, un aspect antisémite, mais là, mis à l'écran, c'est assez frappant, on est vraiment dans une espèce de petit être bossu, en fait, avec un nez crochu, avec des doigts griffus, et là on est vraiment dans le stéréotype, puis en plus qui accumule de l'or, en fait, on est vraiment dans un stéréotype antisémite. Et voilà, et donc, et en contraste, en plus, hein, quand tu contrastes, parce que dans le film, donc, Alberic est tué donc, par Siegfried, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le texte médiéval, ni chez Wagner d'ailleurs. Donc, quand tu mets en contraste hein, ce personnage d'Alberic avec le personnage de Siegfried, hein, qui finit par tuer Alberic, Siegfried, lui, c'est vraiment le jeune guerrier blond, athlétique, voilà, donc beau, blanc, voilà, donc lumineux presque. Hein, donc il y a vraiment. Alors là où c'est frappant, c'est que Fritz Lang, en fait, étant Fritz Lang, en fait, hein, le film visuellement, il est magnifique. Hein, donc, il fait passer ce message, et puis les scènes, elles sont absolument incroyables, quoi. Mais en les regardant, il faut quand même avoir ce contexte-là en tête, hein, et ce discours-là en tête.
Après cet échange passionnant avec l'historien William Blanc, intervenant donc dans les bonus du diptyque de Fritz Lang, Leni Bellungen, disponible chez Potemkin Film, dirigeons-nous chez Elephant Film, là qui sort trois films d'un artisan US de la série B que nous aimons beaucoup, George Sherman. Alors George Sherman, qui est né en 1908, mort en 1991, c'est plus d'une centaine de films dès les années 30. Alors évidemment, il y a des sérieux, il y a toutes sortes de productions. Voilà, il tournait à l'appel. Et le point culminant dans sa carrière, enfin l'un des points culminants de sa carrière, on peut considérer que c'est par exemple son dernier film hein, en 71 avec le couple mythique John Wayne et Maureen O'Hara, le film Big Jake. Et puis on peut citer aussi parmi ses plus belles réussites l'excellent Du sang dans la Sierra, le très violent Reprisal avec Guy Madison et puis Le diable dans la peau avec Audie Murphy. Hein. Audie Murphy, vous savez que moi j'aime bien Audie Murphy, hein, voilà cet acteur, héros de guerre. Mais là, moi, je vais vous parler de trois autres films de George Sherman. Donc, trois films qui nous intéressent aujourd'hui. Ce sont trois productions universales des années 50. On est bien loin des toutes petites productions Republic Pictures hein, des débuts de George Sherman. Même si on reste, malgré tout, dans des budgets modestes, hein, puisque on rappelle que la Universal n'était pas une major réellement, en fait, il produisait surtout des petits films à l'époque, hein, surtout beaucoup de séries B. Et là, Brigade Secrète, l'histoire est assez simple. Hein. Il y a un interne, il est assassiné au sein de l'hôpital Bellevue à New York. L'affaire semble compliquée. Le chef de la police décide de placer l'inspecteur Fred Rohan, qui a fait de la médecine de guerre sur le terrain. Donc du coup, il est assez crédible parce qu'il peut faire un médecin. Qui est là campé par l'excellent Richard Conte, hein, acteur avec une gueule. Grand acteur de son époque. Et lui, il a été donc infirmier militaire, enfin médecin militaire, infirmier militaire, voilà. Et là, il arrive dans l'établissement, il se fait passer pour un toubib, et donc il va travailler en immersion dans l'établissement. Alors, il faut savoir que le film débute par un prologue où, en fait, Richard Conte vante l'excellence de cet établissement, tout simplement parce qu'à l'époque, les politiciens, les dirigeants de l'hôpital qui avaient autorisé le tournage et tout, le maire de New York, ont assez peu apprécié l'image qui est donnée, en fait, dans ce film noir, du personnel médical, tout ça. Donc, ils ont exigé qu'il y ait ce petit prologue rajouté au début du film qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe dès le début du film. Ce prologue où, en fait, Richard Conte vante les mérites de l'hôpital Bellevue. Hein. Voilà, c'est assez, assez drôle. Alors, le film, en fait, est surtout fascinant par son introduction et sa conclusion. Hein. Sherman, il filme un dédale d'escalier, un peu à l'image des expressionnismes allemands. Il joue à merveille avec les perspectives qu'offrent les lieux. Ceci avant, dans l'intro, de nous donner à voir un meurtre filmé assez sèchement, tel un Anthony Mann des grands jours. Hein. On a ce mélange en fait assez étonnant, où on va avoir un début très expressionniste et tout à coup un meurtre très sec qui va intervenir comme ça de manière très surprenante, très étonnante, dans un magnifique noir et blanc. Et puis après, le film va quand même retomber un peu, même si la galerie de personnages qui nous est décrite est une galerie de personnages, ma foi, assez intéressante, en particulier un personnage d'infirmière... un peu ambigu, voilà, enfin même plus que ça. Et puis, reconnaissons à Sherman quand même que malgré ce scénario un peu plan-plan pendant le deux tiers du film, Sherman, lui, est un bon metteur en scène. Donc il va user de tout son talent pour faire les plans les plus biscornus, utiliser les escaliers pour créer des perspectives. Enfin, il va dynamiser le film comme ça, et toujours avec des cadrages originaux, ce qui fait que ça va donner une série B plutôt bien troussée, un bon film noir, avec un final efficace en diable, qui vient nous rappeler hein, le talent de Sherman. Mais j'ai envie de dire que Brigade Secrète, dont l'introduction est superbe, et à la limite, ce film noir est un peu le film dans les trois qui sortent le plus faible. Les deux autres sont vraiment très bons. Alors, on a ensuite donc un film dans lequel le talent de Sherman est encore plus mis en valeur. Un film de pirate avec, alors excusez du peu, Maureen O'Hara, hein, grande star féminine de l'époque, Errol Flynn et Anthony Quinn. Voilà, ce film c'est à l'abordage, c'est un film de 1952. Alors pour certains c'est à la fois le dernier grand film d'Errol Flynn, et pour d'autres c'est le début de sa dégringolade. En fait, Errol Flynn à l'époque, il est grillé. Voilà, tout le monde sait qu'il est très très alcoolique, souvent très alcoolisé sur ses tournages, qui tient pas debout, voire qui surine dessus pendant les tournages, certaines prises et tout ça, c'est très compliqué. La superbe d'Errol Flynn en prend un coup, voilà. Et là, c'est un peu son dernier grand rôle, en fait, où il a encore un peu de sa superbe d'antan. Errol Flynn, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est le Robin des Bois de Michael Curtis, c'est un acteur qu'on adore toutes et tous. Et là, on voit qu'il commence à être bien attaqué par l'alcool au niveau physique et tout, son physique est de plus en plus bouffi, voilà. Et pourtant, bah grâce au talent de son metteur en scène, il est utilisé à merveille par un George Sherman très très inspiré, où il fait. Alors là, c'est pareil. D'ailleurs, c'est un peu un point commun d'ailleurs avec le film précédent. Là, il y avait un flic infiltré. Là, il va y avoir une sorte de pirate infiltré. Hein, notre ami Errol Flynn. On est en 1700. Il s'appelle Brian Hawke. C'est un officier de la marine britannique et il doit infiltrer donc la République pirate de Libertaria à Madagascar. Donc le film débute et on le voit, il va jusqu'à s'infliger des coups de fouet pour parfaire sa couverture. Ah oui, c'est un pirate, donc il a reçu des coups de fouet. Et il résiste à la douleur, Errol. Et découvrir où se trouvent exactement les défenses des pirates, mais des vrais pirates. Et là, il va rencontrer Prudence, surnommée la Rafale, Prudence Stevens, qui est jouée par Maureen O'Hara. Super actrice, hein, voilà, on ne va pas en dire plus sur Maureen O'Hara. Et qui fait un super personnage féminin. Une pirate de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et elle va tomber amoureuse de lui. Donc il y a de l'amour. Errol Flynn, Maureen O'Hara, couple glamour, couple hollywoodien. Mais le chef des pirates, qui est joué par Anthony Quinn, et oui, ce sacré Anthony Quinn, ben il en pince pour elle. Du coup, il va y avoir une sorte de triangle amoureux avec de la piraterie, de la bagarre, du technicolor, un technicolor assez sublime. Et on termine par un duel au pic d'abordage qui est très très beau, très très bien mis en scène, avec un sens du rythme vraiment typique de ce que peut faire un très bon réalisateur de série B. Quoi. Voilà. En gros, on ne s'ennuie jamais dans ce film qui a un charme fou. Le dernier film de ces trois films édités par Elephant Film, c'est un film qui m'a vraiment surpris, que je ne connaissais pas, avec Tony Curtis, Piper Laurie, toute jeune Piper Laurie, qui fait là une femme avec beaucoup de peps, de charme, mais aussi un personnage féminin très moderne. Ce qui me fait dire d'ailleurs que chez George Sherman, il y avait des femmes émancipées. L'infirmière qu'on croise dans comment dire, dans Brigade Secrète, La Pirate, interprétée par Maureen O'Hara, et là, cette jeune femme interprétée par Piper Laurie, me fait dire qu'il y a une pointe de modernité, malgré tout, hein, chez ce réalisateur, qui est intéressante. Alors, le vrai titre du film, c'est Johnny Dark. Il y a un titre français donc, qui s'appelle Les Bolides de l'Enfer. Alors, le film a dû connaître une sortie technique en France. Hein, moi, je ne le connaissais pas. Parce qu'il y a un doublage français. Donc, forcément, un doublage d'époque. Donc, fatalement, je pense que le film a connu une sortie en France. Alors, c'est un film dans lequel Tony Curtis, avec son charme fou, évidemment, hein, campe un ingénieur, pilote, qui veut construire un modèle de voiture très puissant. Et puis, le grand concepteur automobile qui dirige l'entreprise qui a fait fortune, il ne veut pas le suivre. Mais Piper Laurie, elle veut construire cette voiture parce qu'elle est ingénieure aussi. Enfin, elle a des ambitions de réussir ça. Mais en même temps, Piper Laurie et Tony Curtis tombent amoureux. Mais sauf que Don Taylor, l'autre pilote aussi, lui aussi est amoureux. Hein. Don Taylor, rappelez-lui dans L'île du docteur Moreau, qui lui aussi est amoureux. Ça fait un triangle amoureux dans le monde des courses automobiles, en fait. Ce qui est assez rigolo. Mais alors, dans le monde des courses automobiles, mais aussi dans le monde de la construction automobile. Des ingénieurs qui réfléchissent comme ça à la création de véhicules et tout. Alors, on est en 54, donc évidemment, ça n'a pas la même saveur qu'aujourd'hui, mais c'est assez rigolo de voir ça. Évidemment, le personnage de Piper Laurie, pour moi, est très intéressant parce que c'est elle qui s'impose, en fait, dans un monde d'hommes, ce qui est quelque chose d'assez moderne, hein, en 54. Et même si le film a aussi, parfois, des côtés un peu rétrogrades, mais c'est assez étonnant. Parce qu'au final, en fait, même si le film brocarde gentiment les hommes comme les femmes, le film peut être misandre comme misogyne, hein, mais le film en fait est surtout très années 50 en vérité, une esthétique très particulière. Par contre, il y a un truc qui est chouette chez George Sherman, c'est qu'à un moment, il va parce qu'il y a beaucoup de plans où les personnages sont filmés devant un écran, vous savez, en train de bouger ce volant, plan parodié à merveille d'ailleurs dans les OSS 117 de Michel Hazanavicius, où les types regardent à gauche et tournent complètement à gauche le volant quand ils tournent. C'est complètement impossible. Personne ne peut conduire sur une ligne droite en tournant un volant de droite à gauche, hein, constamment. Voilà ce qu'on voit dans ce genre de film. Et là, en fait, Sherman a une idée certainement justifiée par le budget, mais qui est une très bonne idée, c'est d'aller filmer des vraies courses de bagnole. Donc il y a des alternances entre des vraies courses de bagnole et des scènes comme ça filmées devant un écran. C'est un petit cachet sympathique au film. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ça donne un cachet naturaliste documentaire, hein, ces scènes de vraies courses de bagnole, mais en tout cas, ça apporte un dynamisme et une certaine inventivité, un certain renouveau au genre, parce que le genre des courses de bagnole, moi, ce n'est pas vraiment ce qui me passionne le plus au cinéma. Et au final, en fait, les Bolides de l'Enfer, avec son discours plutôt progressiste, hein, parce qu'au final, ce sont les inventeurs, ce sont les téméraires qui vont arriver à vaincre le capitalisme sans âme et tristement gestionnaire d'un grand patron. Au final, ces Bolides de l'Enfer donc, s'imposent comme une très bonne série B, rythmée, enlevée, inoffensive, mais un vrai petit plaisir de cinéphile. Et puis bon, bah, Tony Curtis, quel charme fou, voilà. Donc je vous conseille amicalement, Tony Curtis oblige, de voir Les Bolides de l'Enfer, mais également les deux autres films de George Sherman, donc sortis chez Elephant Film, À l'abordage et Brigade Secrète. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial classique. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé. Mais je vois mes acolytes qui me regardent et qui se disent « Mais GG, tu parles trop. » Alors du coup, je vais laisser mon ami Thomas vous parler d'un film sorti chez Carlotta Film. Moi, j'ai parlé de trois films, mais là, c'est presque un triple film. Hein, parce qu'il y a trois films dans le film. Un film de 63 qui s'appelle « Hier, aujourd'hui et demain ». Un film de Vittorio De Sica.
« Hier, aujourd'hui et demain », en fait, oui, c'est un film à sketch avec, donc, tu l'as dit, trois sketchs. Et qui a la particularité, ces trois sketchs, de mettre en scène les mêmes acteurs, c'est-à-dire Marcello Mastroianni et Sophia Loren, à qui, dans chaque sketch, incarne, d'une certaine manière, un couple. Donc le premier sketch, c'est le plus long, c'est Sophia Loren, qui fait de la contrebande de cigarettes et qui n'a pas payé une amende. Donc forcément, les huissiers débarquent chez elle pour saisir les meubles, mais évidemment, avec tous les voisins, ils ont piqué les meubles pour les planquer, etc. Donc l'huissier ne peut pas saisir les meubles. Alors ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'ils vont l'arrêter. La police vient arrêter Sophia Loren, mais Sophia Loren est enceinte. Et quand elle est enceinte, eh ben, ils ne peuvent pas arrêter une femme enceinte. La loi ne l'autorise pas. Alors, ils attendent qu'elle accouche. Ils débarquent une autre fois, à un moment qu'elle accouche. Le père, c'est Marcello Mastroianni. Et ils attendent qu'elle accouche. Ils débarquent une fois qu'elle a accouché, parce qu'ils savent qu'elle a accouché. Mais voilà, elle est de nouveau enceinte. Elle produit un certificat du médecin comme quoi elle est de nouveau enceinte. Et donc, le film va se dérouler comme ça. Les flics vont débarquer au fur et à mesure. C'est quelque chose de très elliptique. Ils vont se retrouver avec 5 ou 6 gamins pour éviter qu'elle aille en taule. Bon, finalement, elle va finir par aller en taule, mais bon, tout va s'arranger comme il faut. Et donc, c'est le sketch le plus... Oui, c'est le sketch le plus drôle. C'est plutôt une comédie dramatique, hein, Hier, aujourd'hui et demain. C'est le sketch le plus drôle qui donne une vision des quartiers pauvres de Naples, la débrouille, comment s'en sortir face aux autorités qui n'hésitent pas à les matraquer, c'est eux qui peuvent. Ensuite, le suivant, c'est... Donc, Sophia Loren, là, incarne une star de la chanson, je crois, hein. Donc là, je crois qu'au début, c'est une caméra subjective, elle conduit une voiture, et elle prend Marcello Mastroianni, qui est son amant. Donc son amant secret, son mari est loin, quelque chose comme ça, enfin, son amant secret. Puis tout le film, enfin tout le sketch va se dérouler quasiment en voiture. Ils vont se balader en voiture comme ça, et ils vont se prendre la tête sur comment vivre ensemble, comment planquer leur liaison à leur compagnons respectifs, etc.
Ce deuxième sketch, en fait, c'est l'histoire d'une bourgeoise qui s'encanaille avec un intellectuel de gauche.
Oui.
Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Et puis, il y a un running gag avec un type qui percute d'autres bagnoles. Enfin, j'en dis pas plus. Le coup de génie de ce sketch, c'est toute cette première partie en vue subjective. Mais c'est certainement le sketch où, en fait, les personnages sont le moins attachants. C'est en fait ce qui fait que ce sketch a une saveur toute particulière et qui fait la jonction, parce que le premier sketch, parce qu'en fait il y a trois fois le même couple, mais c'est trois villes différentes. Ça compte beaucoup en Italie, qui est un pays très régionaliste. Première partie, les pauvres napolitains. Le deuxième sketch, ouais, c'est cette confrontation de classe qui est clairement et qui effectivement typiquement de la... Dans toutes les comédies italiennes, il y a un côté doux-amer qui fait qu'il y a une certaine amertume à la fin de ce sketch. Et puis, il y a ce troisième sketch qui est culte pour une scène de striptease de Sophia Loren qui a été reprise dans d'autres films et tout ça, qui est un sketch. Alors là, personnellement, moi, c'est celui que je trouve le plus drôle, le troisième. Mais...
Oui, moi aussi, je pense que c'est celui que je préfère. Donc, Sophia Loren, là, joue une prostituée de luxe qui semble recevoir toujours le même client, donc Marcello Mastroianni, hein, qui est un habitué. Et elle a un jeune voisin qui va rentrer dans les ordres. Donc on le voit habillé en soutane sur son balcon. Et par un concours de circonstances, elle va se mettre à sympathiser avec lui. Et ce jeune voisin, bien sûr, va tomber amoureux d'elle, qui ne le pourrait pas, elle qui est beaucoup plus âgée que lui. Et c'est ce qui va provoquer l'ire de la grand-mère de ce jeune homme, parce qu'il vit chez ses grands-parents, qui va provoquer l'ire de sa grand-mère, parce que, bien sûr, Sophia Loren, elle incarne une femme de mauvaise vie. Forcément, il faut pas corrompre le jeune homme qui est sur le point de rentrer dans les ordres. Et à partir de là, alors bien sûr, il y a Marcello Mastroianni qui vient souvent la voir pour... passer un bon moment, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, soit elle rend service au jeune homme qui a un problème, qui vient pour discuter parce qu'il s'engueulait avec sa grand-mère. Mais Marco Mastroianni, il ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire avec Sophia Loren pendant tout le sketch. Et ça, c'est le running gag du sketch. Et finalement, tout va bien se terminer. Ils vont se rabibocher, Sophia Loren et la grand-mère, parce que la grand-mère, elle va s'épancher sur Sophia Loren, qui lui donnera des bons conseils. Et finalement, le jeune homme suivra la voie qu'il s'est choisie. Moi, c'est aussi le sketch que je préfère. Je trouve qu'il y a, un vrai attachement pour tous les personnages, une vraie bienveillance envers tous les personnages qu'il filme dans ce sketch. Et bon, moi, c'est celui que je préfère.
Donc, hier, aujourd'hui et demain, donc c'est disponible chez Carlotta Film, et puis ça doit obligatoirement être dans votre DVD tech, Blu-ray tech, vous dites comme vous voulez, dans votre vidéothèque, on va dire, puisqu'on est des personnes âgées. Mais en tout cas, un vrai petit classique à posséder absolument. Écoutez Culture Prohibée, spécial classique. Autre chose maintenant, mais aussi fait par un maître de la comédie, pas que d'ailleurs, hein, qui a aussi fait du polar, tout ça, enfin, qui a fait des trucs sympas à l'eau brigade spéciale, c'est vachement bien. Parler d'un film de Blake Edwards. Alors, Blake Edwards, qui fait un film en 66 qui s'appelle Qu'as-tu fait à la guerre, papa, qui est un peu l'ancêtre de MASH, qui est un film qui place Blake Edwards vraiment dans l'affiliation d'un de ses maîtres, en tout cas avoué comme tel, hein, Billy Wilder, avec son Stalag 17, Stalag 17. Blake Edwards, qui à l'époque est en pleine gloire, hein, il a fait deux Panthères Roses, dont le deuxième, qui est pour moi l'un des films les plus drôles de tous les temps, quoi. Et Blake Edwards veut absolument faire un film sur la guerre qui s'appelle Qu'as-tu fait à la guerre, papa. C'est un film auquel il tient beaucoup. Grâce à tous ses succès, il va pouvoir le faire. Il le fait d'ailleurs juste après La Grande Course autour du monde, là, qui est un film aussi particulier, un film avec beaucoup de charme. Un film avec Nathalie Wood, c'est toujours un film avec beaucoup de charme. Et là, il fait ce film qui se passe en Sicile, en 43, avec un film avec James Coburn, un film scénarisé par tu vas en parler, Thomas, j'en suis sûr, tu peux pas ne passer à côté de ça. Et qui va donner une image très particulière de la guerre. En cela, je dis que c'est un peu l'ancêtre de MASH, l'ancêtre de... Enfin, dans la continuité de Stalag 17, et aussi l'ancêtre de MASH. C'est pas un film qui tourne en dérision la guerre, c'est autre chose. C'est un film de Blake Edwards, en fait, quoi.
En effet, le scénariste auquel tu fais référence, c'est William Peter Blatty, le romancier qui a écrit L'Exorciste, hein, tout... Et qui s'inspire là d'un fait historique connu, qui dit que les troupes italiennes, en l'absence de l'armée allemande, capitulé sans même chercher à combattre les forces alliées. Quand elles débarquaient, les forces alliées, donc les Italiens y capitulaient tout de suite. On est donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les Américains débarquent dans ce petit village, dans un petit village sicilien, et qu'ils leur demandent de capituler. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour capituler dans ce village, mais à une condition, c'est qu'ils les laissent faire un festival à la fin de la journée, le festival qu'ils font tous les ans dans ce petit village. Alors au départ, il y a un gradé qui rechigne, il fait « Non, il ne faut pas exagérer, on n'est pas là pour rigoler, etc. » Il y a James Coburn qui essaye de calmer un peu le jeu, puis finalement, les Italiens, ils font leur petit festival. Enfin, petit festival, façon de parler. Hein. Parce que à la fin de la nuit, tout le monde est torché, plus personne n'est debout. Mais seulement, tout d'un coup, James Coburn, il apprend, je crois qu'il est au fond d'une baignoire avec un autre gars, enfin, il apprend qu'il y a un gradé qui se pointe pour voir si tout s'est bien passé. Et là, ça ne va pas se passer, pas du tout, mais comme ils veulent. Hein. Alors, les Italiens et les Américains ont échangé leurs uniformes dans le feu de l'action. Il y a des quiproquos, forcément. Chez Black Edwards, il y a des quiproquos. Et il faut faire croire au général, au gradé, qui vient visiter tout ça, que tout s'est bien passé dans les règles. Mais là-dessus encore, il y a les Allemands qui se pointent. Et là, il faut faire croire aux Allemands que les Alliés et les Italiens, ils se battent. Et là, on a le droit à des scènes où ils font semblant de se battre sur la place du village, alors que les prostituées sont sur le balcon en train d'encourager les gars. C'est très drôle. Donc tout le film est comme ça, en fait, avec on retrouve des choses qui sont très du cinéma de Black Edwards. Hein, c'est pas du vaudeville, mais on n'en est pas loin. Et il y a aussi déjà cette continuité qui peut venir de certains mêmes choses. Tu cites Billy Wilder, hein, parce qu'il y a aussi une scène de travestissement qu'on retrouve dans d'autres films de Black Edwards. Donc on retrouve toujours des thèmes similaires à ce cinéaste de la comédie. Et donc c'est une surprise de voir William Peter Blatty, le romancier de l'Exorciste, écrire une comédie. Bon, il a écrit des westerns aussi, hein, mais... C'est un film hilarant, c'est un film très drôle, très bien mis en scène, et que je recommande vivement. It's for my brothers in arms. Uncle Sam, I'm in Vietnam. It's a jungle, it's a prison. But here I am, dreaming of the outside. Freedom, I'm planning my getaway. Weapon drawn, I got my web gear on. I am crawling on my belly near Quezon. But I'm dreaming of the outside and free. Planning my getaway, but there's a guard on the inside with a rifle in his hand, and a guard on the outside buying up government land. Please, Suzanne, tell me once again you will be there when it's over, if you can, 'cause I'm dreaming of the outside and freedom. I'm planning my getaway, but there's a guard on the inside with a rifle in his hand, and there's a guard on the outside calling up loans on demand. Tell me, son, will you fight or run when your time comes to do battle one on one? I'll be dreaming of the outside and
planning your getaway. I want to write this letter to you, Uncle Sam. I'm in Vietnam. It's a jungle. It's a prison. But here I am. Here I am.
Alors, qu'as-tu fait à la gare Papa? Donc, c'est disponible chez Rimini Édition, vous avez compris, Blake Edwards, on aime beaucoup. Et puis, là, on va rester dans le domaine du film de guerre, mais en beaucoup moins drôle. Toujours chez Rimini Édition, hein. C'est Les Boys de la Compagnie C, un film de 78, un film de Sidney G. Fury.
On sort de l'humour, même si le début du film laisse présager éventuellement quelques blagues. Donc, Les Boys de la Compagnie C, c'est un film qui raconte l'histoire de cinq jeunes qui partent en camp d'entraînement militaire pour devenir des marines. On est à ce moment-là en 1967. Donc, on les prépare avant d'aller à la guerre du Vietnam où ils vont vivre un enfer, comme toutes les personnes qui sont allées au Vietnam en soi. Alors, c'est un film qui est porté par un casting qui est très cool. Notamment, il y a Stan Shaw qui, durant plusieurs segments du film, porte le film avec des segments qui sont extrêmement intenses. Il y a Early Ernie qui joue déjà un caporal à l'époque avant de se retrouver quelques années plus tard dans Full Metal Jacket. Donc à ce moment-là, je pensais pas que ça annonçait totalement l'esprit assez sombre du film. C'est un résumé qui, comme ça, peut faire très simple, mais comme tu l'as dit, Jérôme, c'est un film de guerre dramatique. C'est compliqué de vraiment le rentrer dans une case parce qu'il apporte plusieurs sujets et aussi parce que sa narration est très étrange parce que c'est une narration qui se fait à travers un narrateur donc qui est dans le film, qui est un des soldats qui décide de noter finalement ce que va être leur histoire vu qu'à ce moment-là, l'armée américaine ne veut pas faire fuiter à quel point la guerre est affreuse. Donc normalement, les soldats n'ont pas le droit de prendre des notes. Mais lui, il commence à en prendre. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on a de l'entraînement. Ensuite, on a la mobilisation sur le terrain. On va avoir une ambiance constamment de fusillade. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, c'est la guerre, on tire absolument... ils se font quasiment tirer dessus dès qu'ils arrivent. À plusieurs moments, ils se font tirer dessus. Notamment à un moment où ils traversent un pont suite à une décision pas très logique d'un des généraux. À nouveau, fusillade où ils se font... tirer dessus et à travers ça, entre les fusillades, entre les scènes de guerre, il y a des segments intéressants, notamment un des soldats qui a mal au pied, donc qui n'arrive pas à se faire prescrire un médicament, donc quelqu'un va lui vendre de la drogue et au fur et à mesure, il va tomber dans la drogue. Et au moment où ce segment du film arrive, je me suis dit que c'était bizarre parce que je trouvais que le sujet était un peu en dehors du film, mais même s'il complétait, c'était étrange. Et derrière, on a un autre moment où on a un ordre meurtrier du général sous le coup de l'émotion qui arrive et qui, en fait... massacre un village juste par plaisir. Un peu plus tard, on a une tentative de mutinerie. En fait, le film a plusieurs segments de narration. Bon, c'est pas des segments comiques, mais c'est plusieurs segments intenses qui permettent de montrer une réalité de la guerre sur différentes façons. La drogue pour tenir et indirectement ne plus être sensible aux horreurs qu'on voit. Le fait de réagir sur le coup de l'émotion et de partir quasiment en berserk dans un carnage pour essayer de répondre... finalement à cette peur qu'on essaye d'exprimer autrement. On a la perte des camarades qui de base est extrêmement intense, qui à l'origine est symbolique et qui au fur et à mesure devient tellement important qu'on perd un peu l'ordre des morts. Il y a des scènes qui sont très cool, il y en a beaucoup qui sont extrêmement bien. Il y a une scène que j'aime beaucoup où les soldats en ont marre de leur général qui leur donne, de leur colonel qui leur donne des ordres insensé, et il y a un moment où il décide de tout lâcher en ordonnant un bombardement sur une colline où il n'y a absolument personne, juste pour voir une sorte de feu d'artifice. Et c'est un plan où, durant un moment, on les voit de dos, on voit qu'ils sont tous nus sur la colline en train de regarder le bombardement en face et en train d'applaudir dans une scène qui est folle en soi. C'est un film qui aussi introduit des choses qui sont intéressantes. Normalement, on a une présence féminine militaire qui apparaît qu'à deux reprises, qui est quasiment fantomatique dans le film. Et la toute première apparition, c'est lorsqu'elles doivent faire le passage médical pour vérifier qu'ils n'ont aucune infection. Et derrière, les soldats qui leur leur supérieur qui presse pour dire non mais on n'a pas le temps pour l'inspection, on doit aller au combat, au combat, au combat, au combat, juste pour derrière découvrir que leur mission c'était de livrer du mobilier et un gâteau d'anniversaire pour l'un des colonels en étant obligé de traverser le Vietnam dans une zone de combat. La fin est une hécatombe précipitée et c'est une hécatombe qui fonctionne beaucoup, surtout qu'avant on a l'un des rares moments de joie et le film fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment où on va respirer et un autre moment juste derrière où fusillade intempestive, on retourne dans le combat.
Quand on voit ce film, effectivement on pense à Full Metal Jacket, hein, la structure c'est quasiment la même, on pense aussi à Apocalypse Now avec cette histoire du général qui se fait livrer ses cadeaux pour son anniversaire, etc. Et dans la carrière de Sidney G. Furey, c'est vraiment un film à part parce que, bon, je mets à part sa fin de carrière, hein, mais dans cette période de sa carrière, c'est vraiment un film à part parce que Sidney G. Furey, il avait vraiment un style très particulier, très, très à lui. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup faire des plans, des cadres avec des objets en amorce, des objets ou des personnages en amorce. C'était vraiment une façon de filmer très particulière, reconnaissable entre mille. Et là, justement, il choisit un parti pris qui est quasiment un parti pris quasi naturaliste. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas du tout de musique. Et c'est quasiment du documentaire, en fait. Bon, c'est de la fiction, mais c'est filmé comme si c'était un documentaire.
Les Boys de la Compagnie C, donc c'est disponible chez Rimini Édition. Il y a des bonus très intéressants, d'ailleurs, sur l'édition... avec Jean-Baptiste Auré. Et puis un bonus que j'aime beaucoup, c'est le Vietnam de Sidney G. Furey, qui est une conversation entre Jean-Baptiste Auré et Samuel Blumenfeld. C'est vraiment assez passionnant. Voilà, donc je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. On va terminer cette émission avec un petit film, alors c'est pas au sens péjoratif du terme, hein, un petit film de Wim Wenders, sorti chez Blackout, La Perfect Days. Perfect Days, évidemment, la chanson de Lou Reed, voilà, et qui vient, qui résonne, hein, dès qu'on entend ce titre. C'est l'histoire simple, c'est l'histoire d'un type qui entretient les toilettes publiques à Tokyo, en fait, que suit Wenders, et qui s'épanouit, qui aime son métier, mais qui a aussi un quotidien très structuré, quoi. Hein. Voilà, hein. Ça déborde pas d'un poil. Hein. D'ailleurs, à un moment, ça va déborder d'un poil. C'est bien le truc qui fait un peu déraper. Il est passionné de musique, donc il écoute tout le temps. Alors, c'est marrant parce qu'il écoute des cassettes. Eh oui, ça existe encore des gens qui écoutent des cassettes. Il écoute des bons trucs, donc il écoute évidemment Perfect Days, il écoute évidemment Lou Reed, il écoute Patti Smith. Il écoute une reprise japonaise de House of the Rising Sun. Et comme quoi, Eric Burdon and the Animals n'ont pas inspiré que Johnny Hallyday. Voilà, ça c'est clair. Et lui, il n'est pas aux portes du pénitencier, mais il est aux portes donc des toilettes publiques. Alors, des toilettes publiques, ce n'est pas un truc anodin au Japon, parce que l'hygiène, les toilettes, les poubelles aussi, c'est des trucs qui obsèdent vraiment la société japonaise. D'ailleurs, il y a même des trucs assez étonnants parce que, par exemple, il y a un système de vitres qui se teinte quand les WC sont verrouillés. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, au lieu d'avoir simplement un loquet rouge, vert, non, là, on a les vitres qui se teintent pour signifier. Enfin, c'est assez classieux, en fait. Voilà. Donc, c'est assez rigolo de voir ça. Alors, c'est quoi ? C'est l'histoire de Sisyphe, hein, qui passe son temps à récurer les toilettes. Là, il ne monte pas un rocher. En haut de la colline, il récure les toilettes. Et bon, on sent que Wenders, on sait que Wenders, il y a eu Tokyo Ga, il y a eu sa passion pour Ozu. On sent que Wenders, il est de plus en plus imprégné du cinéma japonais, de la société japonaise. On sait aussi que Wenders, il fait des films un peu non scénarisés comme ça, où il vogue comme ça un peu avec ses personnages. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Et en fait, c'est un film assez étonnant parce que, évidemment, personnage comme ça, bouddhiste, qui vit dans l'instant présent, qui est toujours heureux, en apparence. C'est-à-dire que le film a un côté aussi assez consensuel, en fait, pour plaire au public occidental, qui va avoir une vision un peu idéalisée de ce qu'est un Japonais, qui évidemment est méticuleux, qui évidemment est très organisé. Et puis au final, parce qu'on le voit aussi dans ses relations avec son entourage, sa famille, ses collègues, tout ça. Et puis au final, le film sur la banalité du quotidien va se dérégler. Va finir par se dérégler. et que tout n'est pas si rose, si béat, et à un moment, il va se retrouver, en fait, Hirayama, le personnage principal, il va se heurter, en fait, à la brutalité du monde qui l'entoure, et plusieurs fois, il est déconsidéré, en fait, de par son métier, par les gens qu'il croise, à plusieurs occasions. Et puis, on va voir qu'en fait, ce film, qui est en fait l'antithèse du film de Chantal Akerman, qui a été élu meilleur film de tous les temps à un moment, là, Jeanne Dielman, qui démontre à quel point Jeanne Dielman, le travail, quelque chose d'aliénant, qui revêt une certaine façon, une forme d'esclavagisme, esclavagisme de la femme chez Akerman. Là, on a l'impression que le travail, les tâches répétitives, chez lui, ça a quelque chose d'émancipateur. C'est l'impression que ça donne pendant une grande partie du film. Et puis, à un moment, il va se passer un truc dans son boulot, enfin bref, je ne vous en dis pas plus, qui va démontrer, en fait, qu'en fait, dans ce monde ultra-capitaliste qu'est la société japonaise, en fait, la situation d'Hirayama, en fait, elle est très précaire. Voilà. Et qu'en fait, il vit sur un fil ténu et que tout n'est pas si beau que ça. En ce sens-là, le film de Wenders est très intéressant. Alors, en grand connaisseur d'Ozu, bien sûr, il aime bien ces personnages filmés dans leur quotidien. Mais malgré tout, on sent que le regard est celui d'un Allemand, d'un Occidental. Wim Wenders, parfois, semble en émerveillement total. Il est presque béat devant son sujet. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'oublie pas de filmer aussi les moments de dérèglement. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vous conseille ce Perfect Days. Ça aurait vraiment été 2024, l'année Wenders, puisqu'il y a eu énormément de sorties des films de Wenders. On en a chroniqué beaucoup dans cette émission. Et cinéaste à part, qui parfois n'est pas très loin du genre, et puis d'autres fois, c'est un vrai auteur, mais qui est dans autre chose. Wenders, c'est un cinéaste définitivement à part, donc on vous conseille ce Perfect Day qui est disponible donc, chez Blackout.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur les profils Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep